Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Alors que le mouvement des Gilets jaunes vient de boucler une 11e journée de mobilisation en autant de semaines, et au moment où l'exécutif, Emmanuel Macron en tête, se lance dans la mêlée du grand débat national avec, dans un coin de la tête, les élections européennes qui avancent à grands pas, voici Dimanche Politique.
Loïc Bussière.
Avec Andréane Mellard dans le rôle du fin limier ce soir. Andréane Mellard qui s'est penchée sur les prises de parole des acteurs du monde politique ces dernières heures. Une parole que nous décrypterons avec notre invitée Christelle Craplet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de clientèle chez l'Institut de sondage BVA Opinion. Alors avant de revenir sur cet acte 11 des Gilets jaunes, un mot du contre-mouvement que l'on évoquait d'ailleurs dans le journal qui était organisé aujourd'hui à Paris, où plusieurs milliers de personnes ont défilé pour défendre la démocratie et les institutions face aux violences qui ont émaillé les manifestations de ces dernières semaines. Un mouvement des foulards rouges. Christelle Craplet, censée représenter la majorité silencieuse avec un succès relatif, on dira.
Oui, effectivement, il y avait plus de 10 000 participants, donc ce n'est pas non plus une mobilisation massive. Et ce qui représente la majorité silencieuse, le terme de majorité serait à analyser plus en profondeur. Ce qui est sûr, c'est que ça représente une partie de la population qui finalement regarde le mouvement des Gilets jaunes un petit peu avec distance et a été pas mal choquée par toutes les images de violence au mois de décembre, notamment à l'Arc de Triomphe.
Donc, quand vous parlez de regarder le mot majorité avec un regard plus acéré, est-ce que vous pensez qu'il faudrait opposer majorité silencieuse à majorité tout court?
Bah en tout cas, nous, dans nos enquêtes, on voit qu'il y a quand même encore un soutien majoritaire au mouvement des Gilets jaunes. On a réalisé une enquête récemment où on voit que 64% des Français nous disent qu'ils approuvent ce mouvement, contre 36% qui ne l'approuvent pas. Donc, on peut penser qu'il y a quand même encore une majorité qui éprouve une forme de sympathie, même si après, ils peuvent être divisés sur le mode d'action et effectivement avoir un peu de réticence à l'égard de certaines violences. Et en cela, faire écho à ce que pensent les foulards rouges.
Et puis pour boucler la boucle avec la majorité, il n'y avait aucun représentant du gouvernement dans les rangs des foulards rouges, alors qu'il y a deux semaines, quand on demandait à des ministres ayant opinion sur eux, vous me passerez l'expression, comme Jean-Michel Blanquer, il disait qu'il se disait prêt à grossir les rangs de ce rassemblement.
Oui, on sent qu'ils sont un petit peu gênés au sein du gouvernement, parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'il y ait une confrontation dans la rue, manifestation contre manifestation. Et puis surtout, ils essaient en fait d'avoir un nouvel élan avec le grand débat. Et donc pour eux, c'est plutôt à cet endroit-là qu'il faut discuter. Donc c'est ce qui explique probablement qu'ils éprouvent une sorte de distance à l'égard de cette manifestation d'aujourd'hui.
Le grand débat, ce n'est pas dans la rue. Donc, à l'opposé des foulards rouges, il y a donc les gilets jaunes et ce nouveau samedi de manifestation. Hier, avec un scénario qui ne varie pas depuis plus de 2 mois maintenant, des rassemblements en bon enfant tout d'abord, parasités en fin de parcours et en fin de journée par des heurts avec les forces de l'ordre, Andréane Mellard.
Oui, voilà, au lendemain de ce 11e acte des gilets jaunes, ce qui a particulièrement retenu l'attention des politiques, c'est la violence qu'on a pu observer donc de nouveau hier, notamment avec cette photo diffusée sur les réseaux sociaux de Jérôme Rodriguez, figure du mouvement des Gilets jaunes, touché hier à l'œil, place de la Bastille à Paris, vraisemblablement par une grenade de désencerclement. Alors lui va porter plainte, la police des polices a été mise sur le coup. Voilà ce qu'en pense Richard Ferrand, ancien socialiste devenu marcheur. Le président de l'Assemblée nationale était l'invité du grand jury RTL LCI Le Figaro ce midi.
Faut pas confondre l'usage légitime de la force et la violence. Ce n'est pas pareil. Les forces de l'ordre agissent dans le respect de la loi. Si d'aventure il y a un doute sur l'usage ou le mésusage qui a pu être fait par telle ou telle arme de défense, à ce moment-là, une enquête est diligentée pour vérifier que les choses sont faites dans les règles. Mais s'il vous plaît, ne retournons pas la crêpe, si je puis dire. Ce ne sont pas des policiers qui comme hier à Quimper. Il y a 4 CRS qui ont été blessés parce qu'on a jeté sur eux de l'acide.
De son côté, Brice Hortefeux, député européen Les Républicains, nous parle d'un mouvement devenu agressif et convulsif.
Au début, nous avons soutenu ce mouvement parce que nous partagions les préoccupations. Et en réalité, ce mouvement collectif, positif, a dérivé vers agressif et convulsif. C'est ces 4 éléments. Et ce qui explique que nous ayons la seule position de ce type, c'est-à-dire à la fois partager les préoccupations de justice sociale et en même temps être condamné le désordre.
Brice Hortefeux chez nos confrères de BFM TV ce midi.
Christelle Craplet, une réaction à ce que l'on vient d'entendre. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a sombré du côté obscur du militantisme et donc de la violence?
Alors on a depuis quand même certaines semaines pas mal de manifestations de violence qui ont effectivement émaillé ce mouvement, notamment en fin de manifestation la plus récemment. Sur cette idée de violence, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les Français n'aiment pas trop tout ce qui est violence et les manifestations de désordre public. Or là, on a observé au moment du mois de décembre que leur soutien restait quand même relativement fort malgré ces violences-là. Ce qui a marqué une rupture, moi j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt l'Arc de Triomphe que là, les images qu'on voit qui sont effectivement dramatiques, mais qui voilà ne sont pas forcément à relier à l'ensemble des Gilets jaunes et plus aux personnes qui continuent à manifester aujourd'hui.
Non, je parlais d'un scénario connu à l'instant. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'exécutif qui mobilise énormément d'éléments des forces de l'ordre sur le terrain, on parle de 80 000 éléments chaque samedi. Par le passé, l'exécutif a procédé à des interpellations en amont des manifestations. Christophe Castaner affirme répondre à l'ultra-violence par ultra-fermeté. Comment est-ce qu'on explique que l'on n'arrive pas à éviter ou qu'on ne veuille pas éviter ces dérapages?
Ah, c'est vrai que c'est un peu tout l'enjeu pour les forces de l'ordre d'éviter qu'il y ait des dérapages, de montrer qu'ils savent faire face. Et en même temps, effectivement, bah forcément, il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent puisqu'ils n'arrivent pas totalement à juguler ces épisodes de violence. Je ne suis pas sûre qu'il y ait derrière une volonté de ne laisser faire ce type de violence, parce que quand même après, pour l'opinion, en termes d'image, voir les personnes qui ont des yeux, enfin qui peuvent perdre leurs yeux, c'est jamais très très bon. Je pense que c'est une forme de mouvement de contestation qui est compliquée à juguler, et puis on a aussi les forces de l'ordre qui sont mobilisées à différents endroits. On a eu des manifestations qui n'étaient pas toujours déclarées, donc c'était pas toujours non plus évident d'anticiper où elles seront, et donc c'est un petit peu les difficultés auxquelles font face les forces de l'ordre et donc le gouvernement et le ministère de l'Intérieur.
Andréa Mellin.
Oui, ce qui ressort également de ce 11e samedi de mobilisation des Gilets jaunes hier, c'est la persévérance aussi des manifestants, 69 000 dont, selon le ministère de l'Intérieur, moins que la semaine précédente, certes, mais des manifestants inflexibles qui n'ont pas hésité à prendre à partie la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, hier devant son ministère.
Pourquoi vous ne nous apportez pas nos réponses, les réponses aux questions qu'on vous demande? On ne vous demande pas de faire des discours de 7 heures, on vous demande...
Des réponses. Vous ne me dites pas à moi qu'on n'apporte pas des réponses, on les apporte. Et je vous invite à venir les découvrir avec moi lundi et mardi, et quand vous aurez devant vous l'ensemble des réponses qui ont été apportées depuis 18 mois, et même avant, parce que il y a d'autres gouvernements qui ont apporté des réponses au territoire d'outre-mer, madame, mais on continue à le faire d'une méthode différente.
Les gens, ils ont faim, madame.
Je sais,
Français,
monsieur.
Ils ont faim.
Persistant, donc les Gilets jaunes, malgré le flop de la nuit jaune prévue hier place de la République, aussitôt démantelée par les forces de l'ordre.
On baissera pas les bras. Des nuits, on en a passé en province des dizaines sur les ronds-points. On a souffert de l'hiver dehors. Maintenant, on s'est tous retrouvés dans un énorme élan de solidarité qui est pas prêt de s'arrêter, et je pense qu'il n'arrange pas notre gouvernement en marche du coup. Effectivement, on va passer une nuit sur Paris dehors pour changer des nuits dans le Berry où il fait un peu plus froid. Où nous porte le vent. Tant qu'on a de la semelle sous nos chaussures, on avancera, ma foi.
Voilà, vous entendiez un gilet jaune place de la République au micro hier soir de notre envoyé spécial Franck Alexandre.
Christelle Craplet, je voudrais qu'on revienne sur cet échange que l'on vient d'entendre entre un manifestant et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Une ministre alors qui explique que le gouvernement a apporté des réponses aux problèmes des citoyens quand son interlocuteur lui répond « j'ai faim ». Alors au-delà du côté un petit peu simpliste de ce résumé, est-ce que ça montre pas le décalage entre le peuple et les élites, pour prendre un autre raccourci?
Il y a en tout cas un fort sentiment dans la société française d'un gros décalage. On le voit dans toutes les enquêtes, une forte défiance qui s'exprime à l'égard des institutions, du gouvernement, et donc vraiment la volonté de mettre sur le devant de la scène des préoccupations essentiellement sociales, et pour l'instant le sentiment qu'ils ne sont pas encore complètement écoutés. Alors on a eu quand même l'intervention d'Emmanuel Macron en décembre et les annonces qui ont été faites, notamment sur la prime d'activité, qui ont quand même apporté une forme de réponse. Nous on a vu dans nos enquêtes, par exemple chez les retraités qui commençaient à être de plus en plus dans la contestation à l'égard du gouvernement, ils sont un petit peu revenus dans le jeu, mais on a encore toute une frange de la population, notamment chez les personnes qui touchent de faibles revenus, chez les personnes qui sont faiblement diplômées, qui est dans la contestation et qui a le sentiment qu'on ne l'écoute pas et qu'on n'apporte pas de réponse suffisante à ses préoccupations, essentiellement tournées autour de la problématique du pouvoir d'achat et donc des fins de mois difficiles.
Mais concernant justement ces revendications des Gilets jaunes d'origine, le pouvoir d'achat, le gouvernement estime qu'il a répondu sur celle du carburant, sur le pouvoir d'achat avec la hausse du SMIC. Est-ce qu'on peut dire fermer le banc, on passe à autre chose, sauf que la mobilisation, elle continue?
Oui, parce que pour les Français, c'est une forme de réponse, mais d'abord, ils ne sont pas tous concernés. Tout le monde, enfin, c'était quand même une réponse surtout pour ceux qui étaient soit au SMIC, soit les retraités. Donc, il y a toute une partie des personnes et qui s'expriment, notamment parmi les Gilets jaunes, qui en fait ont un travail précaire ou sont dans des situations un petit peu difficiles et qui, elles, peuvent avoir le sentiment que le gouvernement n'a pas totalement ou en tout cas complètement répondu à leurs attentes.
Alors, la mobilisation continue, on le disait, avec des chiffres en baisse, certes, mais tout de même significatif. On parle de 69 000 personnes hier, en baisse, mais significatif, parce qu'en plus, le mouvement peine de plus en plus à parler d'une seule voix.
Oui, le mouvement des Gilets jaunes un peu cassé en deux depuis quelques jours, notamment avec cette annonce mercredi de la Gilet jaune habitante de l'Eure et aide-soignante de 31 ans, Ingrid Levavasseur, annonce de son intention de mener une liste pour les Européennes, liste intitulée « Ralliement d'initiatives citoyennes », une idée qui n'a pas vraiment conquis ses compatriotes en jaune. Ingrid Levavasseur accusée de diviser le mouvement, parfois même de traîtrise. On l'écoute, Ingrid Levavasseur.
Je suis une citoyenne en gilet jaune. Je n'arrête pas de le dire et je serai toujours une gilet jaune, quoi qu'il advienne, car je l'ai toujours été. Je ne vois pas en quoi je serai taclée, puisque de toute façon, hormis le fait de porter un gilet jaune sur le dos, je ne fais rien de mal à part faire ce que bon semble à la démocratie.
Elle était sur BFM TV mercredi. Richard Ferrand, lui, soutient cette candidature ce matin chez nos confrères de RTL.
S'ils estiment qu'ils peuvent représenter un mouvement ou une pensée cohérente pour la proposer au suffrage universel, ils ont raison de le faire.
Ça vous arrange pas un peu?
Sinon, ça ne sert à rien.
Le président de l'Assemblée nationale soutient. Face à lui, Jean-Luc Mélenchon dénonce ce qu'il considère comme étant une manœuvre.
Beaucoup de gilets jaunes ont interprété cette affaire comme une manœuvre.
De la part de qui?
Dans la mesure où ils trouvent dans les premiers qui s'annoncent des gens qui sont de La République En Marche ou proches de La République En Marche ou qui ont été candidats, donc du parti gouvernemental.
Donc ça serait une manipulation de La République
En
Marche?
Non, j'ai pas dit ça. Je demande, c'est leur affaire.
D'accord.
Voilà, tout le monde peut faire une liste dans ce pays, je suppose.
Le président de la France Insoumise, invité de France 3 ce midi.
Jean-Luc Mélenchon qui tacle la liste RIC, Richard Ferrand qui la soutient, Christelle Craplet, peut-être qu'une liste Gilets jaunes fait moins d'ombre au gouvernement qu'à la France Insoumise dans les sondages?
C'est effectivement ce dont on a le sentiment dans les derniers sondages qui ont été publiés en termes d'intention de vote pour les élections européennes. En cas de liste Gilets jaunes, effectivement, La République En Marche reste en tête, alors que ceux qui apparemment ont le plus à perdre sont d'une part la France Insoumise, aussi le parti de Nicolas Dupont-Aignan et le Rassemblement National. Donc c'est sans doute ça qu'a à l'esprit Richard Ferrand quand il se montre plutôt compréhensif et positif à l'égard de cette liste.
On reviendra sur ce dossier des élections européennes dans un instant. Pour l'heure, on parle du grand débat national, deuxième semaine dans la mêlée pour Emmanuel Macron, avec déjà des effets bénéfiques dans les enquêtes d'opinion. Tout au moins, la cote de popularité du président est repartie à la hausse, plus 4 points selon le sondage BVA et Odoxa paru en fin de semaine. L'heure est au travail de terrain pour le président et son premier ministre, Andréane Mella.
Oui, vous n'avez pas pu le rater, semaine de retroussage de manches pour les membres du gouvernement. Édouard Philippe, notamment, qui s'est rendu à une réunion citoyenne à Sartrouville dans les Yvelines, c'était vendredi.
Probablement, il traduit, pour une part, une colère et une exaspération contre les décisions prises par le gouvernement que j'assume. Et donc, probablement, j'ai une part de responsabilité dans ce mouvement. Mais je pense très sincèrement que dans ce mouvement, il y a quelque chose qui résulte des 10 dernières années. Et je dis bien des 10 dernières années.
Édouard Philippe qui assume sa responsabilité dans le mouvement des Gilets jaunes. On a eu aussi Marlène Schiappa dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8 vendredi.
Et ce qu'on est en train de faire là, je le redis, les téléspectateurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national.
Et également Emmanuel Macron, donc le président français qui s'est incrusté à une réunion citoyenne, c'était jeudi à Bourg-de-Péage dans la Drôme.
Vous savez, je suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Donc, si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas.
Voilà, Christelle Craplet, première question, après ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous avez débattu à midi chez votre belle-mère?
Je n'étais pas chez ma belle-mère ce midi pour en débattre. Blague à part, l'objectif de ce grand débat, c'est d'une part d'essayer de faire en sorte que les revendications des Gilets jaunes trouvent une issue et qu'on puisse un peu sortir de la crise, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on en est à la 11e semaine de manifestation et donc il y a un moment où il faut essayer d'aller sortir de la crise. L'autre point important pour l'exécutif, c'est qu'il fait le pari que du coup il va pouvoir un petit peu reprendre la main, retrouver des élans un peu qu'il avait eu pendant la campagne électorale. C'est un pari pour l'instant qui fonctionne relativement dans l'opinion. Effectivement, vous le disiez, il remonte un petit peu en termes de popularité. On a un Français sur deux qui attend de voir un petit peu ce que va donner ce débat. C'est un pari tout de même risqué parce que il faut que derrière il y ait des choses concrètes qui se passent, parce que les Français pour l'instant attendent de voir, mais ils attendent de voir qu'on prenne vraiment en compte leurs revendications. Et donc c'est là que va être tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, de montrer que c'est pas seulement un débat pour gagner du temps, mais un débat vraiment pour aboutir à des modifications substantielles qui répondent aux attentes des Français.
Est-ce qu'on le voit effectivement, Emmanuel Macron remonte dans les sondages? Est-ce que c'est dû à son passage en mode, entre guillemets, campagne? Emmanuel Macron qui tombe la veste, qui mouille la chemise, il y a un côté, une forme de performance devant un public dans lequel il est effectivement assez efficace?
Alors, ça joue sans doute parce qu'il était pour l'instant très isolé, un peu renfermé dans l'Élysée, et donc là, c'est bien voilà, qu'il retrouve un peu le terrain, il était un peu obligé. Après, c'est à double tranchant, parce que certes, il impressionne par sa maîtrise des dossiers, mais il peut aussi donner le sentiment à l'ensemble des Français que finalement, il exprime une forme d'arrogance, de quelqu'un qui est très sûr de lui, qui maîtrise les dossiers, mais qui ne les comprend pas. Et c'est là quand même le principal enjeu, c'est de montrer qu'il répond à leurs préoccupations et qu'il est capable de les entendre et de les comprendre, quelle que soit leur situation.
Alors la popularité du chef de l'État remonte, mais il y a un autre sondage qui paraît dans le JDD aujourd'hui et qui prend le contre-pied de ce constat de la popularité, qui dit que près de 6 Français sur 10 pensent qu'Emmanuel Macron n'a pas changé, et plus encore, ils estiment qu'il doit changer sa politique économique et fiscale, sa manière de s'exprimer quand il est au contact des Français, sa manière d'incarner la fonction présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas une lecture un petit peu schizophrène de cette séquence à laquelle on assiste?
Pas vraiment en fait, parce que certes il remonte en popularité, il n'est quand même qu'à 31%, ce qui est très bas. François Hollande à la même époque était finalement à peu près au même niveau. Il y a quand même 69% des gens, y compris dans notre enquête, qui nous disent qu'ils ont une mauvaise opinion du chef de l'État. Donc on parle certes de remontée parce que ça faisait plusieurs mois qu'il diminuait. On reste quand même sur une très large majorité de Français qui ont une mauvaise opinion de lui. Et puis effectivement, dans nos enquêtes, quand on les interroge sur le fond, les trois quarts d'entre eux nous disent qu'ils désapprouvent la politique économique et sociale qui est menée. Et donc finalement, c'est assez cohérent sur ces deux types d'enquêtes, sur les enseignements qu'on peut en tirer.
Un mot des élections européennes, Christelle Craplet, c'est dans 4 mois, pratiquement jour pour jour, ce sera le 26 mai 2019, équation avec une inconnue supplémentaire, on l'évoquait à l'instant, la liste des Gilets jaunes, le ralliement d'initiatives citoyennes. Il y a d'autres inconnues, hein, ceci dit au sens propre et non arithmétique du terme, concernant des listes des principaux partis, notamment de La République En Marche. On ne sait pas qui va conduire les européennes du côté du parti de la majorité.
Non, effectivement, puis c'est la difficulté qu'a La République En Marche à trouver un peu des figures qui incarnent le mouvement. On l'a vu au moment du renouvellement, il y avait eu un petit peu de flottement, ça avait duré un petit moment avant de trouver le nom des ministres. Et puis c'est pas seulement La République En Marche, on attend encore aussi du point de vue chez Les Républicains, même si voilà, le nom de
François. Ça sera mardi, la Commission nationale d'investiture se réunit mardi.
Voilà, il y a besoin d'avoir effectivement une incarnation pour que la campagne démarre et puis s'incarne au sens propre du terme auprès des Français.
Et ce n'est pas plus simple à gauche, puisque Yannick Jadot, ce matin sur Europe 1, a déclaré qu'il refusait d'être le gilet de sauvetage de la gauche. Et donc il refuse les appels du pied de Ségolène Royal ou encore Benoît Hamon. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, Christelle Craplet. Je rappelle que vous êtes directrice de clientèle chez l'Institut de sondage BVA Opinion. Un grand merci également à Andréane Mellard et à Hélène Avril à la réalisation. Ce soir, La Politique encore sur RFI. Ce sera demain matin avec Manuel Bompard, le directeur des campagnes de la France Insoumise et candidat aux élections européennes. Justement, on en parlait, il sera l'invité de Frédéric Rivière. A noter aussi que Mardi Politique recevra Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle et membre fondateur du mouvement Génération.